Je savais que j'étais pas seul dans cette situation-là parce que je connais du monde à travers le hockey mineur, à travers la province, mais je m'attendais pas à autant de messages. J'ai reçu une centaine de messages qui vont dans la même direction que ce que j'ai déploré ce matin. Ce que je demande aux parents, c'est d'arrêter d'accepter ces gestes-là de la part des parents, de la part des entraîneurs. C'est de dénoncer davantage parce qu'il n'y aura pas de changement qui sera fait si on continue d'aller dans la même direction. Et s'il y a quelque chose que les gens peuvent retenir de la chronique, ben c'est justement de dénoncer, de lever la main lorsqu'il y a une situation comme ça qui se présente.
En terminant, est-ce que tu me permets, Jean-Luc, de te poser la dernière question? Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé à la Coupe Chevrolet?
Pour faire une histoire rapide, c'est que dès le début de la saison, moi, je m'occupais des défenseurs et je suis sur le banc et j'ai vu que les attaquants, dont mon fils fait partie, le temps de jeu était très inégal. Et là, on perd 3-1 après deux périodes, on rembarque sur la glace pour la troisième période, une période de 15 minutes, et là, très rapidement, je vois que le banc est raccourci. Les mêmes joueurs sont toujours de retour sur la patinoire. Et comme on filme les matchs parce qu'on les diffuse sur Facebook pour les parents qui ne sont pas présents à l'aréna, j'ai utilisé cet outil-là pour créer un tableau dans ma chronique qui démontre le temps de jeu de tous les petits gars dans l'équipe. Et malheureusement, celui qui a joué le moins a joué 1 minute 17 sur les 15. Et ça, c'est sans compter qu'il y a 4 joueurs qui n'ont pas foulé la glace lors de la prolongation. Et celui qui a joué le plus, à la fin de la prolongation, c'est quelque chose comme 12 minutes. Et là, vous avez un écart de près de 11 minutes. Et comment expliquer ça? Comment expliquer ça à ces petits gars-là qui sont cloués au banc, qui ont la confiance atteinte? Moi, ça me brise le cœur en tant que papa, mais en tant qu'intervenant aussi. Ces petits gars-là, clairement, je les ai vus dégrader tout au long de la saison parce que leur confiance était complètement atteinte et impossible à rebâtir.
Mais Alexandre, tu dis avoir reçu plusieurs centaines de témoignages. J'entends en rajouter un, moi. Mon gars a joué dans une équipe de basket où il y a des joueurs qui n'ont pas joué de l'année. Alors que cette équipe-là se faisait battre 60 à 10 à chaque game. Pour être capable de le gagner peut-être 60 à 12, il mettait juste les meilleurs. Et il y a des enfants, ils n'ont pas joué. Ces enfants-là ne se réinscriront plus jamais.
C'est sûr. C'est sûr.
Merci beaucoup. Merci Jean-Luc.
Merci M. Picard, c'est très apprécié.
Merci,
très éclairant comme témoignage aussi.
Merci.
Luc, tu me donnes-tu une petite minute?
Ah oui donc.
Pour te dire que Julian Alaphilippe a gagné la 12e étape du Giro aujourd'hui. Lui qui est en chicane en début de saison maintenant.
Oui, à cause de son épouse qui prend trop d'énergie.
Alors voilà, il a remis les pendules à l'heure. C'est un des rares à avoir gagné des étapes dans les trois grands tours, la Vuelta, le Tour de France et le Giro. Et te dire aussi que on attend le nouveau plan du Giro pour l'étape 21, je crois, ou peut-être un peu plus tôt, celle qui montait au col du Stelvio. Le col vient d'être déblayé, déneigé, mais les risques d'avalanche sont beaucoup trop grands. Ah bon? Aujourd'hui, il neige encore dans les Alpes. Alors, on a décidé de faire l'impasse sur cette épreuve. Alors, on attend le chemin de remplacement.
Parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer le Stelvio.
C'est ça. Ça doit être une arrivée en altitude dans un décor absolument titanesque. Mais voilà, avec une épreuve titanesque aussi. Mais voilà que c'est la neige a eu raison du Giro pour cette étape.
Bon, alors, il faut conclure qu'Alaphilippe finit par se mettre en forme après quelques étapes. Il a perdu le poids qu'il avait pris en trop dans les soirées mondaines. Bravo, monsieur Olivier Alaphilippe. Merci. Et merci à toi, Jean-Luc. On s'en va à la pause.
CFIX FM 93 est là pour vous. Que vous ayez besoin de personnel ou simplement de parler de vos prochaines promotions, vous êtes à la bonne place. Acheter de la publicité dans une radio parlée, ça marche. Demandez à nos clients. Lorsque vous souscrivez un plan de publicité à CFIX FM 93, vous avez accès à bien plus qu'une simple publicité. Chez nous, le client est plus qu'un client. N'attendez plus et contactez notre représentant aux ventes Stéphane Morneau au 418-905-0318 ou par courriel à vente au pluriel à commercial CFIX.
Le centre Alpha et de Rivière-du-Loup est en mode série.
Faites du bruit!
Pour l'occasion, l'équipe Centre Alpha vous offre plein de spéciaux. Voici nos 3 étoiles accompagnées par votre service unique d'installation et de réparation. 30% de rabais sur certains modèles de TV et barres de son Samsung. Jusqu'à 90% sur accessoires photo. Spéciaux incroyables dans notre département informatique. Go Centre Alpha, go! Go Centre Alpha, go!
Notre résidence n'est pas seulement un endroit où vivre. C'est une véritable résidence de cœur. Profitez de notre grande salle de séjour pour lire un livre ou ou discuter entre amis avec une vue imprenable sur le fleuve. Tous nos services sont inclus dans un seul prix compétitif. Plus besoin de vous soucier des frais supplémentaires. Avec une réputation alimentaire impeccable et un personnel qualifié et humain, nous mettons tout en œuvre pour que vous vous sentiez chez vous. Prévoyez une visite maintenant. Les résidences de l'Immaculée de Rimouski, au cœur du centre-ville, 581-246-3515.
Vous cherchez un local idéal pour votre entreprise? Bien situé sur la rue Saint-Germain, en plein centre-ville de Rimouski, très accessible en avant ou en arrière avec une superficie de 1252 pieds carrés. Pour plus d'informations ou une visite, contactez Danny au 418-727-5960.
Super C présente la nouvelle grande vente Aïe-Aïe. Avec des prix tellement super qu'on peut juste pas s'empêcher de dire Aïe-Aïe. Cette semaine, les croustilles Ruffle format sélectionné sont à 2,55. Aïe-Aïe. La caisse de Capetipix sans alcool est à 5,99. Aïe-Aïe. Puis les poitrines de poulet frais sont à 4,44 la livre. Aïe-Aïe. La nouvelle grande vente Aïe-Aïe, ça se passe en magasin et en ligne. Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 22 mai. Détails au supercé.ca.
Parce que nous tenons à nos clients. Alignement PMM t'invite à prendre rendez-vous pour préparer ton véhicule pour l'été. Que ce soit pour un changement d'huile, un alignement ou tout simplement pour une réparation. Alignement PMM est là pour toi. Des vieux pneus d'été fondus? Pas de problème, on en vend. On vend aussi des pièces de qualité. Parlant de qualité, celle de notre service n'est plus à faire. Prends rendez-vous dès maintenant. Alignement PMM. 418-722-6727. 418-722-6727.
Saint-Charles Garnier, pour certains, c'est loin. Mais pour avoir du plaisir, c'est proche. Du 24 au 26 mai, on va en avoir du plaisir au premier festival Énergie et Culture. Vous vous intéressez aux énergies alternatives? Vous avez des besoins pour alimenter une propriété isolée ou vous voulez tout simplement économiser sur votre facture d'électricité? Venez voir nos exposants au festival. De plus, un spectacle hommage à Johnny Cash le vendredi soir avec Tennessee Two et samedi, un hommage à Guns N' Roses tout féminin avec Garden of Roses. Info et réservation au 775-4205.
BMR réduit ses prix pour un jardin verdoyant à faire envier vos voisins. Profitez de 15 % de rabais sur les produits d'arrosage et d'horticulture Botaflora. Dépêchez-vous, offre valide jusqu'au 22 mai. Détails en magasin et à bmr.ca. BMR, bienvenue chez vous.
FM 93.
Parce que ce n'est pas tout de dénoncer. Il faut agir sans réserve.
Jusqu'à 15 heures, vous écoutez Sans Réserve.
Sans Réserve.
Avec Luc Ferrandez.
Marie-France Bazot est avec nous. Bonjour, Marie-France.
Bonjour, Luc Ferrandez.
En 2011, vous avez écrit un livre. En fait, vous avez dirigé la rédaction d'un livre où plusieurs personnes s'exprimaient sur ce dont le Québec avait besoin. Vous, à ce moment-là, vous aviez le besoin de savoir, de rassembler des gens pour donner une direction. Pourquoi 2011?
En fait, j'étais l'animatrice de l'émission Bazot TV à Télé-Québec qui rassemblait plein de gens qui commentaient l'actualité, qui venaient comme invités. C'était vraiment un grand plateau très dynamique où on parlait de la société semaine après semaine. Puis, souvenez-vous, Luc, à l'époque, 2011, on sentait la fin d'un cycle. C'était les années Charest, c'était les années de la corruption. C'était vraiment, on sentait la fin de quelque chose. Il y avait une écœurantite explosive dans la société. La preuve, c'est que l'année suivante, ça va être le printemps érable, une explosion d'une parole des jeunes qui s'est libérée. Les Québécois ont voté pour le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois, première femme, première ministre au Québec. Bref, en 2011, il y avait cette espèce d'écœurantite. Et sur mon plateau, je posais en fin d'entrevue à tous les invités qui venaient, qu'ils soient du domaine politique. Jacques Parizeau était là, du domaine culturel, de la société. Je leur posais la question, mais de quoi le Québec a-t-il besoin? Et c'est devenu un leitmotiv. Donc, ces questions-là auxquelles nos invités répondaient semaine après semaine ont constitué quelque chose qu'on a réuni. Bon, on a demandé à d'autres penseurs de la société de quoi le Québec a-t-il besoin, des collaborateurs de l'émission également. Et on a réuni ça dans un livre et ça donne... cette idée de texte pour la presse est venue parce que je faisais du ménage dans ma bibliothèque et je tombe sur ce livre-là qui date de 2011, 13 ans, aussi bien dire un siècle, et je me remettais dans ce contexte-là. Et je me disais, mais de quoi aujourd'hui le Québec a-t-il besoin? Parce qu'on le sent très bien en politique, on le voit dans les sondages, mais on le sent quand on discute avec nos concitoyens, on le sent qu'on est arrivé à la fin d'un autre cycle politique. On est arrivé, les problématiques dont on parle dans la société sont très différentes de celles dont on discutait en 2011. On est rendu ailleurs. Alors, je me suis demandé, mais de quoi le Québec a-t-il besoin aujourd'hui? Donc, pour faire rapidement la petite histoire de cette question-là, c'est comme ça que ça a commencé.
Et là, vous avez posé cette question-là à des lecteurs, à des auditeurs, puis vous dites avoir été surprise des réponses.
Oui, j'ai posé la question dans la presse la semaine dernière dans ma chronique et j'ai reçu, la presse m'a acheminé les réponses que les gens donnaient. Écoute, Luc, des centaines de réponses. En fin de semaine, je triais les réponses, je faisais des catégories. C'est vraiment fascinant parce que la question, donc, que je posais en 2011, puis je le faisais sur Twitter aussi auprès de mes abonnés, j'avais énormément de réponses et c'est complètement différent 13 ans plus tard. Ce qu'on sent aujourd'hui dans toutes les réponses que j'ai reçues, puis certaines très, très élaborées, c'est autant c'était explosif, puis que les gens répondaient, on a besoin d'un nouveau gouvernement, on a besoin d'un chef charismatique, d'un leader qui nous donnerait des coups de pied dans le cul. Le Québec a besoin d'un coup de pied dans le cul. Ce qu'on sent aujourd'hui, c'est vraiment une espèce de... Le ton est très différent, une espèce de démission tranquille. On sent que les Québécois sont psychologiquement usés, fatigués de la politique, ont été fatigués de la pandémie qui a été un point de rupture où beaucoup de fractures béantes dans la société sont apparues. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans les réponses des lecteurs de la presse, c'est une totale dissonance entre ce qui préoccupe les médias et ce qui nous préoccupe, nous, quand on écrit à une fille qui pose la question dans le journal.
C'est intéressant cet aspect-là, oui. Parce que là, quand on dans les médias, on le sait, hein, on parle de beaucoup de santé, on parle beaucoup de décrochage, on parle des routes, on parle de la crise climatique.
La langue, tu as raison. La gauche et la droite, les woke, de fléau de l'humanité à en lire certains textes dans les journaux le matin. Et ce dont les gens me parlaient, c'était de l'éducation beaucoup, mais d'une manière très, très, très incarnée. Pas comme d'un immense projet de société, mais d'une manière très, très incarnée. Du logement, évidemment, mais vraiment avec des histoires personnelles. La place des jeunes. Ça revenait souvent. On veut des jeunes dirigeants. Il faut dans les entreprises laisser la place aux jeunes. On veut avoir des jeunes hommes, des jeunes femmes qui pensent les choses autrement. On veut le regard des jeunes. Il est temps, des boomers me disaient, il est temps que nous laissions notre place aux plus jeunes. Donc, la place des jeunes, ça revenait beaucoup, beaucoup. La notion de solidarité, du nous, le sens du collectif qui s'exprimait à partir de petites choses, mais ce besoin de dire nous, parlant d'un groupe de gens, ça c'est revenu beaucoup, 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 beaucoup. Puis je te parle pas du nous politique. Ça, dans 20% à peu près des réponses, il y avait des gens qui se qualifiaient comme souverainistes, qui voulaient avoir un pays, qui voulaient que le Québec devienne souverainiste. Il y avait ça, et le seul leader politique qui a été évoqué comme parce que je posais pas la question qui serait le meilleur premier ministre. Du tout, on n'était pas là du tout. Puis spontanément, les gens me parlaient de Paul Saint-Pierre Plamondon comme un des rares politiciens qui a été nommé dans la question que j'ai posée. Donc, souveraineté, oui, mais le « nous » dont je te parle, ça dépasse la souveraineté. C'était pas nécessairement des gens qui étaient indépendantistes qui en parlaient, mais ce besoin de...
C'est un « nous » fondamental, un « nous » apolitique, c'est-à-dire où les liens avec les autres, la rencontre, l'interaction... Oui. C'est ça qu'il n'y a plus.
Tu as totalement raison qu'on se tire la tête le nez des réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut quitter cette époque de l'ego.com pour arriver à l'ère du nous. C'est ça, le sens du collectif, le sens que tous ensemble, on forme quelque chose sans qu'il y ait un aboutissement nécessairement politique, mais de sentir qu'on appartient à une communauté et pas juste à... on n'est pas juste des individus et des égaux. Ça, c'était très, 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 très fort. Ça m'a vraiment frappé. Puis l'autre chose qui m'a beaucoup frappé, Luc, c'est que de quoi le Québec a-t-il besoin en 2024? De vision, de courage.